Lizzie présente La vengeance des mers de Jim Fergus. Traduit de l'anglais, États-Unis, par Jean-Luc Pinin. Lu par Sylvie Jacob et Astrid Ross.
Pour mes chers amis Moira et John D. Williams III, avec toute mon affection. À cette époque, la campagne était plus large de 3000 km et plus profonde de 2000. On se promenait dans de nombreuses vallées secrètes où des tribus indiennes vivaient au calme, même si certaines choisirent de fonder des nations nouvelles dans ces régions jusque-là inconnues, situées entre les traits noirs séparant les États. J'ai épousé une jeune pony lors d'une cérémonie derrière la cascade rituelle. Chiens et humains, librement réunis, devinrent de taille moyenne et brun. Jim Harrison, dans le temps, une heure de jour en moins. Ce sont les mères, et non les guerriers, qui créent un peuple et forgent sa destinée. Luther Standing Bear, chef Oglala Lakota. 1er mars 1876. Cette fois, tout est vraiment fini. Dès les premières lueurs du jour, telle la main vengeresse du Tout-Puissant, les soldats ont fondu sur nous. J'ai reçu un coup de feu. J'ai peur de mourir vite. Le village est détruit, incendié. Le peuple nu est parti se réfugier en courant dans les collines et se tapir sur la roche comme des animaux. Je ne sais où sont la plupart d'entre nous. Certaines sont mortes, d'autres encore vivantes. Je me suis réfugiée dans une petite grotte avec Feather on Head, Quiet One et Martha. Nous sommes blottis les unes contre les autres avec nos enfants, tandis que le village brûle en contrebas, semblable à un immense bûcher funéraire. Les soldats empilent tous nos biens, tout ce que nous avons, peau, fourrure, couverture, réserves de viande et de nourriture, selles de chevaux, munitions, placent les cadavres par-dessus et embrasent le tout avec leurs grandes torches. Ils mettent pareillement le feu aux loges qui s'enflamment comme des arbres dans une forêt sèche. À l'intérieur, poudre et cartouches font des feux d'artifice. Tout ce que nous avions s'envole en fumée. Je suis blessée et crains de mourir bientôt. J'entends mon souffle rauque, des bulles de sang s'échappent de ma bouche et de mon nez. Tant qu'il me reste un peu de force, je vais continuer à écrire ce qui s'est passé. Extrait de la dernière page des journaux de May Dodd. Abbaye Saint-Antoine du désert, Powder River, Montana. 15 novembre 1926. La nuit suivant la charge de Mackenzie, le thermomètre indiquait presque moins 20 degrés. La cavalerie s'était emparée à l'aube du village Cheyenne qu'elle avait entièrement détruit, massacrant des dizaines d'Indiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, abattus sans discrimination à coups d'épée, de carabines, de pistolets, par des soldats pris de folie meurtrière. Plusieurs de nos amis blanches étaient parmi eux avec leurs bébés. Celles et ceux qui réussirent à leur échapper prirent la fuite vers les collines, certains grièvement blessés, certains à peine vêtus, sans rien pour les protéger des éléments eux-mêmes et leurs enfants. Bien que dans un état grave, le grand chef de la douce médecine, Little Wolf, conduisit les membres encore vivants de sa bande, en harde, à travers les montagnes jusqu'au village du guerrier Lakota Crazy Horse. Je les suivis et fis tout mon possible, bien peu vu les circonstances, pour assister ces malheureux et soulager leur peine. Ces 2 semaines de marche furent un véritable chemin de croix. 11 bébés Cheyennes moururent de froid la première nuit, dans les bras de leur mère, 3 encore la nuit suivante, et tous les enfants de sang mêlé qui avaient survécu jusque-là périrent. Les 2 sœurs irlandaises, Margaret et Suzanne Kelly, perdirent chacune leurs 2 jumelles au cours de ce voyage exténuant. Les voir affligées au supplice avait de quoi vous déchirer le cœur. Elles me maudirent et maudirent notre Seigneur bien-aimé de leur avoir pris leur petite fille. Avec Martha Atwood, les sœurs Kelly sont les 2 seules femmes blanches de la tribu qui, à ma connaissance, ont réchappé à l'assaut de Mackenzie et à ses conséquences désastreuses. Au fil des ans, j'ai mené plusieurs enquêtes pour tenter d'apprendre ce qu'elles étaient devenues, et n'ai recueilli à chaque fois que de sombres rumeurs. Je n'ai jamais su véritablement ce qui leur était arrivé. Que Dieu les bénisse toutes deux. Martha Atwood Tangle Eyre, officiellement l'unique épouse du programme Femme Blanche pour les Indiens qui n'ait pas perdu la vie ce mois-là, est revenue à Chicago avec son fils, baptisé Dodd en l'honneur de May, l'amie chère de Martha. Je n'ai jamais revu Martha, mais pendant de nombreuses années, nous avons entretenu une correspondance. Dans sa toute première lettre, elle m'informait qu'elle avait remis le dernier message de May Dodd au capitaine John Bourke. Cependant, elle évita par la suite d'évoquer toute l'affaire, qu'il s'agisse du FBI ou du massacre épouvantable qui, définitivement, y a mis un terme. Je n'ai jamais su non plus quel accord l'État américain avait conclu avec elle pour qu'elle garde le silence à ce sujet. Un moine n'a pas à poser de telles questions. En tout cas, elle a tenu parole. Ce silence, elle l'a gardé. D'après le codicille de l'abbé Anthony de la Prairie.